Ce fut un étrange mois de juin. D'un côté, j'étais ravi de répéter avec la troupe qui avait créé le Jamboree. C'était du déjà-vu de la meilleure espèce. De l'autre, je me surprenais à me demander, avec une fréquence de plus en plus élevée, si j'avais réellement eu l'intention d'effacer Lee Harvey Oswald de l'équation de l'histoire. Je n'arrivais pas à croire que je n'avais pas le courage de le faire. J'avais déjà tué un type nuisible et de sang-froid. Mais je ne pouvais pas nier le fait que j'avais eu Oswald dans ma ligne de mire et que je l'avais laissé s'échapper. Je me disais que je l'avais fait en vertu du principe d'incertitude et non de l'existence de sa petite famille. Mais je n'arrêtais pas de revoir Marina sourire en arrondissant ses deux mains devant son ventre. Je n'arrêtais pas de me demander s'il n'était pas un bouc émissaire après tout. Puis je me rappelais qu'il serait de retour en octobre. Et alors évidemment, je me demandais ce que ça changerait. Sa femme serait toujours enceinte et la fenêtre d'incertitude toujours ouverte. Pendant ce temps, il y avait la lente guérison de Sadie à surveiller, des factures à payer, des imprimés d'assurance à remplir, la bureaucratie étant tout aussi exaspérante en 1963 qu'en 2011, et nos répétitions. Le docteur Ellerton ne put assister qu'à une, mais il apprenait vite, et il s'acquitta de sa performance à l'arrière de Bertha, la ponette dansante, avec élégance et brio. Après le filage, il m'informa qu'il voulait s'adjoindre la collaboration d'un troisième chirurgien, un spécialiste du visage du Massachusetts General Hospital. Je lui répondis, le cœur serré, que je trouvais cette idée excellente. « En aurez-vous les moyens ?» me demanda-t-il. « Mark Anderson n'est pas bon marché. » « On va se débrouiller, » je lui dis. Les dates des spectacles se rapprochant, j'ai invité Sadie à assister aux répétitions. Elle a refusé gentiment mais fermement, en dépit de sa promesse de venir au moins à une répétition générale. Elle quittait rarement la maison, et lorsqu'elle le faisait, c'était uniquement pour aller dans son petit jardin de derrière. Elle n'avait pas remis les pieds au lycée, ni même en ville, depuis le soir où John Clayton l'avait défigurée avant de se trancher la gorge. J'ai passé la fin de la matinée et le début de l'après-midi du 12 juillet à la Grange pour une ultime répétition technique. Mike Coslow, qui s'était glissé dans le rôle de producteur aussi naturellement que dans celui de comédien burlesque, m'a informé que la représentation du samedi soir se ferait à guichet fermé et que les places étaient déjà vendues à 80% pour celles du soir même. « Nous aurons assez de ventes au guichet pour remplir la salle, monsieur A. Aucun souci à se faire. J'espère juste que moi et Bobby Jill, on rattrapa le rappel. »« Bobby Jill et moi, Mike. » Et non, vous ne le raterez pas. Tout était parfait. Ce qu'il fut moins, ce fut de croiser Ellen Dougherty débouchant de Beechtree Lane alors que j'y pénétrais, puis de trouver Sadie assise près de la fenêtre du salon, sa bonne joue ruisselante de larmes, un mouchoir serré dans le poing. « Quoi ? Quoi ? Quoi ? » lui ai-je demandé. « Que t'a-t-elle dit ?» Sadie m'a surpris en forçant un large sourire. Il était de guingois, mais non dépourvu d'un certain charme enfantin. « Rien qui ne soit la stricte vérité. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je vais te faire un sandwich et tu pourras me raconter comment ça s'est passé. » C'est donc ce que j'ai fait. Et je me suis inquiété, bien sûr, mais j'ai gardé mes inquiétudes pour moi, ainsi que mes commentaires sur les proviseurs de lycée indiscrètes. Ce soir-là, à 18h, Sadie a inspecté ma tenue, renoué ma cravate et brossé une peluche, réelle ou imaginaire, sur les épaules de mon veston. « Je te dirais bien merde, mais tu serais capable de le prendre au pied de la lettre. » Elle portait son vieux blue jeans délavé et un corsage à smock qui camouflait, un peu en tout cas, sa perte de poids. Je me suis surpris à me souvenir de la jolie robe qu'elle portait pour la création du Jody Jamboree. Une jolie robe, avec une jolie fille dedans. Mais c'était avant. Ce soir, la jolie fille, encore d'un côté, serait toute seule chez elle quand le rideau se lèverait à regarder une rediffusion de Route 66. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » m'a-t-elle demandé. « J'avais espéré que tu y serais, c'est tout. » À peine dit, je l'ai regretté, mais ça n'a pas créé de difficultés. Le sourire de Sadie s'est estompé, puis il est reparu. Comme le soleil lorsqu'il se cache derrière un petit nuage. « Tu y seras, donc j'y serai. » Elle m'a dévisagé timidement du seul œil que sa mèche à la Veronica Lake laissait voir. « Si tu m'aimes, je veux dire. Je t'aime énormément. »«
Ouais,
je suppose que oui. » Elle m'a embrassé au coin de la bouche. « Et je t'aime. Alors je te dis merde, mais ne merde pas. » Et remercie tout le monde de ma part. C'est promis. Tu n'as pas peur de rester ici toute seule ?
Ça me va.
Ce n'était pas vraiment une réponse à ma question, mais c'était le mieux qu'elle pouvait m'offrir pour le moment. Mike avait raison. Nous avons affiché complet le vendredi soir, une heure avant le début du spectacle. Donald Bellingham, notre régisseur, a baissé les lumières à 20h tapante. Je m'attendais à éprouver une légère déception après la création presque sublime du premier Jamboree, avec son entartage final, que nous avions décidé par consensus de réitérer le samedi soir uniquement, pour n'avoir à nettoyer qu'une seule fois la scène de la grange et les premières rangées de sièges. Mais cette reprise fut presque aussi bonne. Pour moi, le clou de la soirée fut la pantomime de la ponette dansante, lorsque la moitié avant du binôme, composé à l'arrière du docteur Ellerton, soit un entraîneur Borman à l'enthousiasme un peu trop délirant, manqua de jeter Bertha à bas de la scène. Le public, persuadé que ces 20 ou 30 secondes passées par Bertha à tituber sur un air de boogie au-dessus des feux de la rampe faisaient partie du spectacle, applaudit pareille audace avec enthousiasme. Quant à moi, qui n'étais pas dupe, je me découvris en proie à un paradoxe émotionnel que je ne revivrai probablement jamais. En coulisses, à côté d'un Donald Bellingham paralysé d'effroi, je ris aux éclats, tandis que mon cœur terrifié menaçait de me sortir de la gorge. L'harmonique de la soirée se produisit pendant le rappel. Main dans la main, Mike et Bobby Jill gagnèrent le centre de la scène. Bobby Jill s'adressa au public en ces termes. « Miss Donnell est quelqu'un qui compte énormément pour moi, pour sa bonté et sa charité chrétienne. Elle m'a aidé quand j'ai eu besoin d'aide et m'a donné envie d'apprendre la danse que nous allons exécuter pour vous maintenant. Nous vous remercions tous d'être venus ce soir témoigner de votre charité chrétienne. N'est-ce pas, Mike ?
Ah ouais, alors ! Dit-il. « Vous êtes les meilleurs, vous tous !»
Il jeta un coup d'œil vers moi, côté jardin. J'ai pointé le doigt sur Donald, courbé sur son tourne-disque, bras levé, prêt à envoyer le micro-sillon. Cette fois-ci, le père de Donald saurait que son fils lui avait emprunté l'un de ses disques de big band, car Mr. Bellingham était dans la salle. Glenn Miller, ce jeune capitaine trop tôt disparu sous les tirs des bombardiers, attaqua In the Mood. Et sur scène, tandis que le public marquait le rythme en battant des mains, Mike Coslow et Bobby Jill Arnott s'envolèrent dans un lindy hop supersonique, beaucoup plus ardent que tous ceux que j'avais jamais dansé avec Sadie ou Christy. Un lindy débordant de jeunesse, de joie et d'enthousiasme, ce qui le rendait magnifique. Quand j'ai vu Mike presser la main de Bobby Jill pour qu'elle tourne dans l'autre sens et se propulse entre ses jambes, je me suis soudain trouvé propulsé moi-même à Derry, à regarder danser Bevy, la fille qu'aime la vie, et Richie n'entrave que Chi. Tout se tient, j'ai pensé. C'est un écho tellement parfait qu'on ne peut distinguer la voix vivante de la voix fantomatique du passé. Un instant, tout fut clair. Et lorsque ce genre de phénomène se produit, on s'avise que c'est à peine si le monde est présent. Le savons-nous tous secrètement ? Le monde est un mécanisme parfaitement équilibré d'appels et d'échos de couleur rouge qui se font passer pour un système d'engrenages et de roues dentées, une horlogerie de rêves carillonnant sous la vitre d'un mystère que nous appelons la vie. Et au-delà de la vitre, et tout autour d'elle, du chaos, des tempêtes, des hommes armés de marteaux, des hommes armés de couteaux, des hommes armés de fusils. Des femmes qui pervertissent ce qu'elles ne peuvent dominer et dénigrent ce qu'elles ne peuvent comprendre. Un univers d'horreur et de perte encerclant cette unique scène illuminée où dansent des mortels, comme un défi à l'obscurité. Mike et Bobby Jill dansaient à leur époque. Et leur époque, c'était 1963. Celle des coupes en brosse, des téléviseurs de table et du rock fait maison dans le garage. Ils dansaient dans une ère où le président Kennedy promettait de signer un traité interdisant les essais nucléaires et déclarait aux journalistes qu'il n'avait aucune intention de laisser nos forces militaires s'enliser dans les politiques occultes et les anciennes rancunes de l'Asie du Sud. Ils dansaient comme Bevy et Richie avaient dansé, comme Sadie et moi avions dansé. Et ils étaient magnifiques, et je les aimais. Non en dépit, mais en raison même de leur fragilité. Et je continue de les aimer. Ils ont terminé sur une figure parfaite, main levée, respirant fort, face au public debout. Mike leur accorda une bonne quarantaine de secondes pour applaudir à tout rompre. C'est incroyable de voir comment les feux de la rampe peuvent transformer un simple bloqueur à gauche en dieu du stade au corps sculptural, puis invita au silence, qu'il obtint. Notre metteur en scène, Mr. George Amberson, souhaite prononcer quelques mots. Il a consacré beaucoup d'efforts et de créativité à ce spectacle. J'espère donc que vous allez l'accueillir avec de grands bravos. Je suis monté sur scène sous un nouveau déferlement d'applaudissements. J'ai serré la main de Mike et piqué une bise sur la joue de Bobby Jill. Tous deux se sont esquivés en coulisses. J'ai levé les mains pour obtenir le silence et me suis lancé dans mon discours soigneusement préparé, excusant Sadie de ne pouvoir être là ce soir, mais les remerciant tous en son nom. Tout orateur sait se concentrer sur deux ou trois visages particuliers d'un auditoire, et je me suis concentré sur deux d'entre eux au troisième rang qui ressemblaient singulièrement à Ma et Pa dans American Gothic. C'était Fred Miller et Jessica Shawstrap, les deux membres de la commission scolaire qui nous avaient refusé l'utilisation du gymnase du lycée, au motif que l'agression de Sadie était une histoire de mauvais goût qui devait être, autant que possible, ignorée. Au bout de quatre phrases, j'ai été interrompu par des hoquets de surprise, qui furent suivis par des applaudissements, isolés d'abord, puis augmentant rapidement jusqu'à se transformer en tonnerre. Le public se remit debout. Je n'avais aucune idée de ce qui avait provoqué cette réaction jusqu'à ce que je sente une main légère, hésitante, presser mon bras au-dessus du coude. Je me suis retourné et j'ai découvert Sadie debout à côté de moi dans sa robe rouge. Elle avait relevé ses cheveux et les avait retenus par une barrette brillante. Son visage, les deux côtés de son visage, étaient complètement visibles. Je découvris dans un choc qu'une fois pleinement révélé, les dégâts résiduels n'étaient pas aussi horribles que je l'avais craint. Ceci pourrait contenir une sorte de vérité universelle, mais j'étais trop abasourdi pour m'apesantir là-dessus. Bien sûr, ce renfoncement irrégulier avec les points de suture encore apparents était pénible à regarder. De même que la chair molle et l'œil gauche exagérément écarquillé qui ne clignait plus tout à fait en tandem avec le droit. Mais elle souriait, de ce charmant sourire de guingois qui, à mes yeux, faisait d'elle une Hélène de Troie. Je l'ai étreinte et elle m'a étreint en retour, riant et pleurant. Sous sa robe, son corps tout entier vibrait comme un câble à haute tension. Lorsque nous nous sommes retournés vers le public, tout le monde était debout et lançait des vivas, à l'exception de Miller et Shawstrap, qui regardèrent autour d'eux, s'aperçurent qu'ils étaient les seuls à ne pas avoir encore levé leur cul et se joignirent aux autres à contre-cœur. « Merci, » dit Sadie lorsque le tumulte s'apaisa. « Je vous remercie tous du fond du cœur. Avec un merci spécial à Hélène Doherty qui m'a prévenu que si je ne venais pas ici ce soir vous regarder tous dans les yeux, je le regretterais pour le restant de ma vie. Et le plus grand des remerciements à... » Elle marqua la plus infime des hésitations. Je suis sûr que le public ne l'a pas remarqué. Ce qui a fait de moi la seule personne à capter que Sadie avait été à deux doigts de révéler à 500 personnes ma véritable identité. À George Amberson. Je t'aime, George. Annonce qui fit fureur naturellement. Dans les périodes sombres, lorsque même les déclarations des sages sont incertaines, c'est toujours l'effet que font les déclarations d'amour. Hélène ramena Sadie chez elle à 22h30, épuisée par tant d'émotions. Mike et moi avons éteint les lumières de la grange à minuit et sommes sortis les derniers. « Vous venez à l'après-soirée, monsieur A ?»« Al a dit qu'il resterait ouvert exceptionnellement jusqu'à 2h et il a fait rentrer 2 fûts de bière. Il n'a pas la licence, mais je pense pas qu'on viendra l'arrêter pour ça. »« Non, non, ne comptez pas sur moi, » lui ai-je dit. « Je suis crevé. » « Je te vois demain soir, Mike. » Je suis passé chez Deckey avant de rentrer. Il était assis sur son perron, en pyjama, en train de fumer une dernière pipe. « Soirée plutôt exceptionnelle, » commenta-t-il. « Oui. Cette jeune femme a fait preuve de courage. Un fameux courage. On peut le dire. Allez-vous remplir votre devoir envers elle, fils ? Je vais essayer. » Il hocha la tête. Elle le mérite après ce qu'elle a subi avec le dernier. Et vous vous débrouillez bien jusqu'à présent. Il jeta un regard à ma cheville. Vous pourriez sans doute y aller en voiture ce soir et la ranger juste devant chez elle. Après cette soirée, je pense que personne en ville n'y trouverait à redire. Il avait peut-être raison, mais j'ai décidé qu'il valait mieux prévenir que guérir. Et j'y suis allé à pattes, comme je l'avais fait tant d'autres soirs par le passé. J'avais besoin de ce temps pour laisser mes propres émotions s'apaiser. Je n'arrêtais pas de la voir dans les lumières des projecteurs, sa robe rouge, la courbe gracieuse de son cou, sa joue lisse et sa joue abîmée. Quand je suis arrivé à Beatry Lane et que je me suis glissé à l'intérieur, le clic-clac était encore en position canapé. Je me suis arrêté pour le contempler, perplexe, ne sachant comment l'interpréter. Puis Sadie m'a appelé, très doucement et par mon vrai nom, depuis la chambre à coucher. La lampe était allumée, projetant une lumière douce sur ses épaules nues et sur un côté de son visage. Ses yeux étaient lumineux et graves. « Je pense que ta place est ici, » m'a-t-elle dit. « Moi, je te veux ici. Et toi ?» J'ai ôté mes vêtements et me suis allongé près d'elle. Sa main s'est déplacée sous les draps, m'a trouvé et m'a caressé. « Est-ce que tu as faim ? Parce que j'ai du fondant tout près, si tu as faim. » « Oh, Sadie, je meurs de faim. » « Alors éteins la lumière. »